Écoute-moi ça, Albertine.
Bonsoir, Albertine. Bonjour à vous. Bonne écoute. Le grand roman américain sur la guerre de 14-18, écrit en 1933, traduit par Stéphanie Levet, est sorti en septembre 2013 en France. Décembre 1917, une compagnie de l'US Marine débarque en France et est envoyée au front. La compagnie K. William Marsh a recueilli les témoignages de 113 marines, ses compagnons d'infortune sur le front de la Marne, d'une écriture froide et réaliste. Pour te mettre dans la froideur, lecture. Écoute-moi ça, Albertine. Soldat Bernard Glass. Quand j'ai vu Jackie Bauer tomber et ses artères qui crachaient le sang contre la paroi de la tranchée comme un poulet quand on lui a arraché le cou, ça m'a tellement surpris que je suis resté planté comme un imbécile. Pendant que le gamin allemand escaladait le parapet et partait en courant. Au bout d'un moment, j'ai repris mes esprits et je me suis mis à lui courir après. J'aurais pu lui tirer dessus, facile, mais c'était encore trop bien pour cette ordure. Il a presque réussi à me faire perdre mon souffle. Mais j'ai fini par le rattraper. Je lui ai enfoncé ma baïonnette dans le corps une fois, et puis deux, et puis encore. Et après, je lui ai frappé le crâne avec la crosse de mon fusil. C'était un sale coup de traître, couper la gorge de Jackie comme ça. Un tireur d'élite qui nargue l'ennemi, puis une première montée à l'assaut. Écoute-moi ça, Albertine.
Soldat Léo Hastings. Ce jour-là, tout le matin, le tireur isolé allemand m'a canardé. Je sortais la tête où je marchais à découvert devant la tranchée, et alors j'entendais un petit bruit métallique et une balle me passait au-dessus de la tête sans m'atteindre. À ce moment-là, je me figeais sur place et je restais planté deux bonnes secondes sans bouger. Ou alors tout à coup, je faisais un pas en arrière et un pas sur le côté. Je marchais comme ça, de long en large, sur le parapet, au nez et à la barbe du tireur. Je savais que je l'avais tellement énervé qu'il était à deux doigts de la crise de larmes. Je lui avais tiré dessus au viseur télescopique, moi aussi. Et je savais qu'aucun tireur isolé au monde ne peut toucher un homme qui change d'allure comme je le faisais, à moins d'être capable d'anticiper les déplacements du bonhomme. Ce qui est à peu près aussi probable que de faire sauter la banque à Monte-Carlo. Je vais me planter là et le laisser me tirer dessus au jugé toute la journée, je me suis dit. Il pourra jamais m'avoir. C'est simple. Où je suis maintenant, il me tient. Mais attends voir. Il faut qu'il évalue sa distance de tir. Il va certainement se servir de cet arbre mort, là, et de la ferme. Ça y est, il a bien calculé. Il tient compte de la déviation du vent. Il estime son élévation. Maintenant, c'est bon. Il est prêt à m'envoyer sa ferraille. Mais si je fais une enjambée sur la droite, ou un petit pas de danse comme ça, je lui fausse tous ses calculs. Regarde ça. Voilà sa balle qui me rate sur la droite, 60 cm de trop. Il pourra pas me toucher pour sauver sa peau, je me suis dit.
Soldat Silas Pullman. Juste encore quelques minutes et on monte à l'assaut. J'entends ma montre qui fait tic-tac, tic-tac. Ce silence, c'est pire que le pilonnage. Je n'ai encore jamais été sous le feu. Je ne sais pas si je pourrais le supporter ou pas. Je pensais pas que ce serait comme ça. Je veux partir en courant. Je suis lâche, faut croire. Les autres n'ont pas peur du tout. Ils sont là à tenir leurs fusils et à raconter des blagues. Peut-être qu'ils ont peur comme moi. Qu'est-ce que j'en sais? Comment je peux savoir ce qui se passe dans leur tête? Le sergent Monet me parle. Il faut que ta baïonnette soit bien ajustée, il me dit. Je fais oui du menton. J'ose pas dire un mot. Ah mon Dieu, faites que personne voie comme j'ai peur. Faites qu'ils ne me voient pas. Je vous en supplie. Je ne vais plus y penser. Je vais penser à autre chose. Le lieutenant Jewett a donné le signal. Le sergent Monet enjambe la crête de la tranchée. C'est bon, à l'attaque, il crie. On grimpe tous par-dessus. On marche lentement, droit devant. Pourquoi les Allemands n'ouvrent pas le feu? Ils savent qu'on arrive. Ils nous voient. Bon Dieu, tirez. C'est pas pour rire. Allez-y, tirez-nous dessus. À terre, ventre à terre, espèce d'imbécile. Tu veux te faire descendre? Les Allemands ont ouvert le feu. On est au sol, on rampe, centimètre par centimètre, on rampe. Ils n'ont pas encore ajusté leur tir. Les ordres, c'est de ramper jusqu'à 50 mètres de leur tranchée, et là, on fonce et on donne l'assaut. Foncer et donner l'assaut. C'est très simple, donner l'assaut. Ils ont ajusté leur tir maintenant. Le caporal Broquette est touché à l'épaule. Il rampe vers un trou d'obus. Ça y est, il est dedans. Le voilà à l'abri des balles des mitrailleuses. Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de se tortiller? Ça va rien arranger? Non, ça va rien arranger du tout. Les balles retournent la terre à 30 cm de ma tête. Baisse-toi, colle-toi, colle-toi, ras du sol, espèce d'imbécile. Martha Appleton et Luke Janoff sont touchés. Maintenant, ils sont tombés, au même moment, presque. Ils sont restés au sol calmement, sans plus bouger, ni l'un ni l'autre. Maintenant, c'est l'homme à côté de moi qui est touché. C'est qui? Il s'appelle Les Offiz, je crois. Il se lève et puis il retombe. Il a pris dans la figure, le sang dégouline sur ses joues, lui rentre dans la bouche. Il fait un bruit comme quelqu'un qui s'étrangle. Il rampe partout, on dirait une fourmi. Il ne voit pas où il va. Pourquoi tu restes pas couché bien tranquille? Ça serait le plus raisonnable à faire. Tu vois pas où tu vas, tu sais? On est près des tranchées. Debout, debout, c'est le moment de foncer et de lancer les grenades. C'est le moment de prendre les tranchées. On se bat à la baïonnette. On est dans les tranchées allemandes. On se bat à la crosse du fusil et au couteau. Il y a des cris, des hommes qui courent dans tous les sens. Maintenant, tout est calme de nouveau. On a commencé à repartir avec nos prisonniers. Le sergent Doc Dorf est à terre, égorgé, à moitié dans la tranchée, à moitié dehors. Jerry Heston est étalé de tout son long sur le caillebotis allemand, les paupières qui battent encore. Un train sanitaire, puis le vin d'ici et l'eau de vie de là. Écoute-moi ça, Albertine.
Soldat Martin Daley. Je me suis réveillé dans un train sanitaire. J'avais les yeux qui me brûlaient et mal dans la poitrine. Et je sentais des élancements dans la jambe. D'où j'étais étendu, je pouvais apercevoir de temps en temps des bouts de campagne française couverts de coquelicots et de moutarde en fleurs. Un moment, j'ai entendu la rumeur des voix et le fracas des locomotives quand on a fait halte dans une gare sur le trajet. Je me suis rallongé et j'ai refermé les yeux. Le wagon puait le désinfectant et le sang séché, et aussi l'odeur que dégagent les hommes qu'on a enfermés ensemble en grand nombre. Au-dessus de moi, un type parlait sans arrêt du Nebraska. Sa main, qui pendait de son lit, était d'un blanc un peu gris, et ses ongles viraient au bleu. Il parlait doucement, d'une voix lente. Il voulait dire des tas de choses, parce qu'il savait qu'il allait mourir avant qu'on ait atteint l'hôpital. Mais il n'y avait personne pour l'écouter. On était étendus là, la plupart en silence, et on pensait chacun à son propre malheur, comme des moutons qu'on vient de castrer, trop fatigués pour que jurer nous soit un soulagement. On fixait bêtement le plafond, ou on jetait un coup d'œil entre les portes vers la jolie campagne qui fleurissait partout.
Soldat Graley Borden. On a été momentanément détaché de notre division et rattaché aux Français. Et pendant 6 jours et 6 nuits, on a combattu sans sommeil et sans trêve. Comme on se battait sous les ordres des Français, c'était eux aussi qui nous donnaient le ravitaillement et les vivres. Quand le premier repas est arrivé, il y avait du vin rouge et une petite ration d'eau de vie pour chacun d'entre nous. On avait faim et froid. On était extrêmement fatigués. L'eau de vie a réchauffé les sangs et nous a rendu les longues nuits supportables. Mais le deuxième jour, quand ils nous ont apporté le repas, le vin et l'eau de vie avaient disparu des rations des soldats américains. Les œuvres de bienfaisance françaises s'étaient élevées contre le fait qu'on nous distribue de l'alcool. On craignait que la nouvelle ne parvienne jusqu'aux États-Unis, où elle risquait de contrarier l'Union des femmes chrétiennes pour la tempérance et le Bureau des méthodistes pour la tempérance, la prohibition et les bonnes mœurs.
Le soldat allemand barbu, puis le silence de l'artillerie. Écoute-moi ça, Albertine.
Soldat Carol Hart. Le sergent Tietgen était avec moi le jour où on a pris le nid de mitrailleuse dans le bois de Veuilly. On a trouvé tout le peloton tué, sauf un homme costaud et barbu qui était salement blessé. Juste quand on arrivait, le barbu a levé la main pour fouiller à l'intérieur de sa veste. J'ai cru qu'il allait nous jeter une grenade, et je lui ai vidé mon pistolet dans le corps. Son bras est sorti de sa veste dans un mouvement saccadé, désordonné. Et puis, la paume de sa main est restée posée sur ses lèvres un instant. Ensuite, le sang qui lui remontait dans la gorge a commencé à l'étrangler. il a fait un bruit de gargouille et un soupir. Ses yeux ont chaviré et sa mâchoire s'est affaissée. Je me suis approché et j'ai ouvert sa main pour voir ce qu'elle tenait. C'était la photographie d'une petite Allemande. Elle avait la figure toute ronde, des taches de rousseur et pour l'occasion des anglaises qui lui tombaient sur les épaules. « Ça devait être sa fille », a dit le sergent Tietjen. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir parce que je n'arrêtais pas de penser à ce soldat allemand. J'ai tourné et viré. Et puis, au petit matin, Tietjen est venu et il s'est allongé près de moi. « Ça sert à rien de t'en vouloir comme ça, mon gars », il a dit. N'importe qui aurait cru qu'il allait lancer une grenade.
Soldat Charles Hobson. La première chose qu'on a remarquée, c'est le silence de l'artillerie allemande. Ensuite, c'est notre artillerie à nous qui s'est arrêtée de tirer. On s'est regardé, surpris de ce calme soudain, et on s'est demandé ce qui se passait. Une estafette est arrivée, tout essoufflée avec un message du quartier général de la division. Le lieutenant Bartelstone, à la tête de notre compagnie, l'a lu lentement, et puis il a fait venir les sergents de toutes ses sections. « Dites à vos hommes de cesser le feu !» « La guerre est finie !» il a déclaré.
Mais pour les hommes de la compagnie K et pour tous les soldats de toutes les guerres, c'est loin d'être fini. Il faut rentrer, réapprendre à vivre, pour ceux qui pourront. Comme ce soldat affreusement mutilé quand il retrouve sa fiancée au pays. Je me suis approché d'elle, mais je ne l'ai pas touchée. Je me suis agenouillé, j'ai appuyé ma joue contre ses genoux. Si elle avait seulement posé sa main sur ma tête, si elle avait seulement prononcé une parole bienveillante. Mais non, elle a fermé les yeux et elle s'est rétractée. J'ai senti les muscles de ses cuisses se raidir de dégoût. « Si tu me touches, je vomis », elle a dit. Soldat Walter Webster. Le caporal Stephen Waller et son bilan. Écoute-moi ça, Albertine.
Caporal Stephen Waller. La compagnie K a engagé les hostilités le 12 décembre 1917 à 22h15 à Verdun, France, et a cessé le combat le 11 novembre 1918 au matin près de Bourmont. Ayant la nuit précédente traversé la Meuse sous les bombardements ennemis et ayant participé au cours de la période suspensionnée aux opérations décisives suivantes, Aisne-Marne, Saint-Mihiel et Meuse-Argonne. De nombreux hommes ont été cités pour leur bravoure et les décorations suivantes ont effectivement été décernées pour service exemplaire sous le feu. 10 croix de guerre, dont 4 avec palme. 6 Distinguished Service Cross, 2 médailles militaires et une Medal of Honor. Cette dernière ayant été attribuée au soldat Harold Dresser, un homme qui a fait preuve d'un courage individuel peu commun. Le bilan des morts blessés au combat, disparus ou évacués pour cause de maladie a été nettement plus élevé que la moyenne. Notre commandant, le capitaine Terence Maltlock, s'est montré capable et efficace. Il a su garder pendant toute la durée des hostilités le respect et l'admiration des hommes qui ont servi sous ses ordres.
Ce livre, écrit en 1933 et publié pour la première fois en français en 2013, est le cri, le témoignage, le cauchemar, le souvenir d'une centaine d'hommes comme des courtes nouvelles de 2 pages en moyenne par soldat de la compagnie K, engagé sur le front français en 1917. Dans une interview de Bertrand Tavernier du journal Le Monde, question, quand vous pensez à la Grande Guerre, qu'est-ce qui vous revient en premier à l'esprit? Quel enseignement tirez-vous? Bertrand Tavernier. Le fait que les gens qui l'ont déclenché n'ont jamais ensuite endossé leurs responsabilités. C'était inéluctable, non? Le fait que les principales instances dirigeantes n'ont jamais tiré de leçons, à commencer par les généraux français, dont la plupart ont été d'une sottise, d'un conservatisme hallucinant. Des défauts qu'on a retrouvés en 1939. Il y avait quelques exceptions brillantes. Hélas, ce ne sont pas celles-là qui ont prévalu. Le fait qu'on a voulu, au lieu de ressouder l'Europe, se payer sur un vaincu qui ne pensait pas qu'il était vaincu. Au lieu de voir à long terme, on a juste flatté le court terme, le plus facile. L'Allemagne payera. Et aussi l'absence de connaissance de la réalité. Vous rendez-vous compte qu'il a fallu 1 an au haut commandement français pour arriver à intégrer dans son logiciel mental
que les Allemands construisaient des abris en dur dans les tranchées et que donc leurs soldats étaient plus au sec. Entre la découverte et la mise en application de cette découverte, il se passe un an. Eh bien, cette situation, on la retrouve dans certaines entreprises françaises, avec des grands patrons qui s'exonèrent de toute responsabilité des décisions effrayantes qu'ils ont prises, qui coulent des entreprises et qui montent en grade, s'auto-congratulent. Bertrand Tavernier. Écoute-moi ça, Albertine te dit à la prochaine. Et Mario te dit, prends soin de toi et écoute le ton réaliste d'une lettre de condoléances que rédige le soldat Sylvester Wendell. Chère madame, votre fils Francis est mort au bois de Bello. Pour rien. Vous serez contente d'apprendre qu'au moment de sa mort, il grouillait de vermine et était affaibli par la diarrhée. Ses pieds avaient enflé et pourri. Il puait. Il vivait comme un animal qui a peur, rongé par le froid et la faim. Puis, le 6 juin, une bille de shrapnel l'a frappé et il est mort lentement dans des souffrances atroces. Vous ne croirez jamais qu'il a pu vivre encore 3 heures, mais c'est pourtant ce qu'il a fait. Il a vécu 3 heures entières à hurler et jurer tour à tour. Vous comprenez, il n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Depuis longtemps, il avait compris que toutes ces choses auxquelles vous, sa mère, lui avez appris à croire sous les mots « honneur », « courage » et « patriotisme » n'étaient que des mensonges. Salve !